La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour à toutes et à tous. L'enseignement musical et le handicap semblent au premier abord difficiles à concilier. Le handicap dresse un mur de difficultés qu'élèves et parents hésitent à franchir par peur de l'échec. Dans quelles conditions les personnes malentendantes en France peuvent-elles aujourd'hui faire de la musique, en faire leur métier, voire l'enseigner au conservatoire? Les enseignants des conservatoires peuvent-ils trouver ou adopter des méthodes adaptées à l'enseignement musical? Delphine Descances, malentendante de naissance et professeure de piano au conservatoire de Montargis, dans le Loiret, partage avec nous son parcours personnel. Nous allons évoquer avec vous, Delphine, votre parcours d'élève puis d'enseignante. Malgré un handicap auditif survenu dès la naissance, vous avez entamé et poursuivi des études musicales au conservatoire avant de devenir à votre tour enseignante de piano. Nous allons donc aborder avec vous, Delphine, la question du handicap auditif dans le cadre et dans le contexte de l'enseignement musical proposé dans les conservatoires de musique, sous deux aspects, celui de l'apprentissage et celui de l'enseignement. Bonjour Delphine.
Bonjour Bertrand.
Delphine, donc je viens de le dire, vous êtes professeure de piano, vous êtes également référente publique empêchée au Conservatoire de musique de Montargis depuis 2015. Vous êtes également formatrice sur l'enseignement de la musique aux personnes en situation de handicap. J'ai lu dans l'article que France Musique vous avait consacré en avril dernier que vous aviez l'oreille absolue. Delphine, êtes-vous issue d'une famille de musiciens?
Alors, pas du tout. Très bonne question. En fait, ma mère a fait partie d'une chorale en amateur étant jeune. Sa cousine, par manque de place dans son appartement, lui avait laissé son piano à la maison dans l'espoir que mon frère et moi-même y jouions. C'est mon frère le premier qui a commencé l'apprentissage du piano et j'ai souhaité le suivre par la suite.
Merci Delphine. À quel âge avez-vous entamé l'apprentissage de la musique et du piano en particulier?
J'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans, dans une école associative de l'agglomération montargoise où je suis née. J'aimais cette activité, comme tout enfant de cet âge, et j'étais vite plutôt douée. Mon professeur me recevait chaque semaine en cours individuel, puis en collectif pour la formation musicale. Et je participais également aux stages durant les vacances scolaires, bien que j'appréciais mieux être seule derrière mon piano.
Merci. Donc, apprentissage du piano dans une structure à partir de 6 ans. À partir de quel âge avez-vous, vous, détecté votre handicap auditif?
Alors, je ne sais plus vraiment vers quel âge j'ai pris conscience de mon handicap, puisque j'ai vécu tout le temps avec. Tout ce dont je me rappelle, c'est que j'étais une enfant plutôt solitaire. Alors, on disait de moi que j'étais dans la lune, que j'étais à côté de la plaque, comme on disait. Et en fait, je me rappelle que j'observais énormément le monde autour de moi, qui me paraissait un peu hostile. Donc cette surdité est congénitale, bilatérale, c'est-à-dire qu'elle touche les deux oreilles. Et finalement, à l'époque, c'était très très tabou. Il ne fallait surtout pas évoquer le handicap et encore moins le montrer. Quand on me demandait si j'avais des problèmes d'audition ou si j'étais sourde, je répondais par la négative. J'avais beaucoup de mal à m'intégrer dans la société. La seule bulle de bonheur était finalement le cercle familial et la musique.
Alors, c'est très paradoxal parce que quand vous avez pris conscience de ce handicap, quel rapport avez-vous mis en place par rapport à l'apprentissage du piano en particulier? Est-ce que la conscientisation de ce handicap a changé votre rapport à la musique d'ailleurs?
En fait, mon handicap auditif a été diagnostiqué, du moins de ce que je me souvienne, vers l'âge de 8 ans. Et je n'ai été appareillée que bien plus tard, vers l'adolescence, à 14 ans. Et encore, lorsque j'étais à la Scola Cantorum de Paris ou au CNR de Saint-Maur-des-Fossés, je ne mettais pas d'appareil auditif car je ne les supportais pas, surtout lorsque j'étais au piano. Et c'est au moment où j'ai commencé à enseigner que j'ai dû mettre mes appareils parce que je ne comprenais pas ce que me disaient les élèves. Et donc effectivement, grâce à finalement mon oreille absolue, quelque part ça a finalement transformé ma relation à la musique notamment. puisque tous les sons chantent dans ma tête. Et je pensais finalement que toutes les personnes avaient ce pouvoir, comme on dit souvent, jusqu'à la fourchette qui tombe sur le carrelage où on entend un si bémol, ou les demi-tons de la fermeture des portes du métro. En fait, ce qui se passe, c'est que j'entends et je ressens tous les sons, mais c'est la parole, ce sont les mots qui sont déformés.
Est-ce que le... Merci beaucoup, Delphine. Est-ce que le... la réception de la musique passe également, et dans le cadre du piano plus particulièrement, par la sensation de vibration?
Oui, tout à fait. En fait, c'est justement l'apprentissage du piano me permet notamment d'entendre toutes les vibrations. Et c'est ce qui a notamment faussé, notamment les audiogrammes que l'on faisait à l'époque. C'est surtout des audiogrammes au niveau tonal. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où on entend le son et non la vibration, on appuie sur le bouton. Un petit conseil à tous ceux qui ont besoin, à un moment donné de leur vie, de passer un audiogramme. En fait, pas du tout. De mon côté, quand je faisais les audiogrammes, justement, c'est parce qu'en fait, c'est au moment où je ressentais la vibration que j'appuyais sur le bouton. Voilà. Et donc, en fait, nous-mêmes, malentendants, on est hypersensibles à ces histoires de vibrations. Et finalement, durant toute mon enfance, mon adolescence, ça a été fait de stratégies pour compenser cette perte auditive. D'une part, grâce à la superpuissance de cette oreille dite absolue, et d'autre part, par des stratégies totalement diverses.
Si je comprends bien, parce que je suis un peu néophyte, la sensation ou la vibration vous parvient avant le son?
Oui.
Ok, merci. Il fallait que j'ai cette précision, parce que c'était pas clair pour moi. Merci beaucoup.
D'accord.
Delphine, oui, c'est très important. Delphine, quand vous êtes au conservatoire et que vous décidez d'y rester avec ce handicap auditif, c'est volontairement ou c'est parce qu'il n'y a pas d'autres établissements adaptés pour l'enseignement de la musique à cette époque?
Alors, à cette époque, il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Disons que... Excusez-moi, je me trompe, je ne sais plus la question.
Je vous en prie. Non, je reformule. C'était quand vous étiez donc élève au conservatoire, élève de piano, en classe de piano, et vous avez pris conscience de votre handicap. Et la question que je me posais, c'est de savoir si le maintien au conservatoire était une décision subie parce qu'il n'y avait pas d'établissement d'enseignement plus adapté à cette époque.
Ce n'était pas forcément subi, c'était un choix.
D'accord.
Donc c'était plus un choix, une envie. Vous parlez du conservatoire, alors qu'en fait, à l'âge de 6 ans, j'étais en école associative et ensuite j'ai intégré le conservatoire qu'à l'âge de 18 ans, après mon baccalauréat.
Ah, je comprends mieux, d'accord.
Voilà, donc effectivement, oui.
Non, je vous en prie, poursuivez.
Oui, effectivement, je ne me suis pas posé la question s'il y avait des structures adaptées. À l'époque, c'était assez compliqué déjà. De mon côté, je ne parlais pas du tout de mon handicap, je voulais être comme les autres et je voulais poursuivre les études musicales et artistiques comme les autres, à la seule différence que je ne me sentais pas capable d'y arriver. Donc c'était tout le temps une remise en question permanente. Malgré tout, tous mes enseignants n'étaient pas au courant et j'ai tout fait pour être au même niveau que les autres et sans le vouloir, peut-être au-dessus des autres.
Merci. Merci. Oui, c'est la question en fait, que je souhaitais vous poser, c'est-à-dire hors conservatoire, puisqu'à l'âge de 18 ans, dans une structure associative, vous avez eu affaire à des enseignants qui avaient connaissance de votre handicap. Certains n'avaient pas connaissance de votre handicap. Et ce que je comprends, c'est que c'est essentiellement vous qui avez fait des efforts pour vous adapter à une pédagogie qui ne prenait pas forcément en compte cet handicap auditif.
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, si je peux apporter les stratégies que j'ai mises en place, notamment lorsque j'étais enfant ou adolescente, les stratégies c'est que j'ai mises en place finalement pour compenser cette perte auditive, la lecture labiale, donc la lecture des lèvres, donc où je dois m'adresser en face à la personne pour pouvoir lire sur les lèvres. Ça peut pas être un petit peu surprenant parce que je fixe beaucoup du regard à la personne, donc on croit que je peux la séduire ou autre, mais pas du tout. C'était vraiment uniquement dans cet objectif-là. Sans rééducation, parce que je n'ai jamais mis les pieds chez un orthophoniste de ma vie. Et également une très forte mémoire visuelle. Et ça, c'est un avantage énorme quand on est musicien, notamment quand on, en cas de trou noir en concert ou pour déchiffrer à vue. Dès que je vois quelque chose une fois, c'est mémorisé comme une photo. Et ça, c'est vraiment très efficace. C'est ce que j'ai... Ma mémoire visuelle a été énormément décuplée à cause de ou grâce à. On va dire que je dirais plutôt grâce à ce handicap. Et effectivement, au conservatoire, aucun professeur n'était au courant. Et je commence à en parler que depuis à peine 10 ans. Donc, je commence à contacter mes anciens professeurs pour leur expliquer, en fait, je suis malentendante. Et récemment, j'ai croisé par hasard mon ex-professeur de mathématiques au lycée, qui n'était pas du tout au courant de cette situation et qui m'a expliqué qu'effectivement, quand j'étais en classe de seconde, on se demandait ce qui se passait. Ils ne pensaient pas du tout que j'irais jusqu'au baccalauréat, puisque pour eux, j'avais une case de vide. Et c'était pas malentendant. Vous voyez, quand on n'en parle pas, où ça mène. C'est très négatif pour la personne qui le subit, finalement. Et donc, en fait, c'était assez complexe à entendre, à l'idée de se dire elle a une case de vide, alors que ce n'était pas du tout le cas.
Merci, Delphine. Concernant la mémoire visuelle, ça m'intéresse particulièrement. En fait, c'est une mémoire visuelle qui prend en compte, et c'est la question, à la fois la lecture de notes, c'est-à-dire la lecture solfégique, et oui, aussi le mouvement des mains sur le clavier, par exemple.
Tout à fait. Alors, en fait, c'est surtout la mémoire du geste, bien sûr, et la mémoire des notes pour la partition. J'arrivais à lire très, très vite toutes les clés, sans souci, évidemment, en s'entraînant énormément, notamment lorsque j'étais au conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés, appuyé par la Scola Cantorum. Et en fait, j'ai monté les étapes très vite parce qu'en lecture de notes et de rythme, j'étais vraiment, on disait que j'étais imbattable. Alors c'est vrai que je n'avais pas forcément cette sensation-là. Mais effectivement, le fait d'avoir cette très forte mémoire visuelle permet d'anticiper énormément. Et du coup, ça a été un excellent pouvoir pour la suite des études.
Merci Delphine. Depuis combien de temps enseignez-vous aujourd'hui le piano?
Alors, j'enseigne le piano depuis plus de 25 ans, on va dire, ça fait 30 ans pile cette année, et avec passion. C'est vraiment le métier que je souhaitais faire, enseignante. Au départ, je voulais être professeure des écoles, et finalement, j'ai bien fait, parce que lorsque je suis intervenue à des ateliers de musique dans les écoles, je me suis dit, mais comment j'aurais pu faire à 25 enfants avec tout ce bruit? Et maintenant que je suis bien appareillée, effectivement, même grâce à cela, ça aurait été vraiment très, très complexe, très compliqué.
Merci. Vous êtes en poste de piano au conservatoire de Montargis. Vous enseignez à quel type d'élèves aujourd'hui?
Alors, j'enseigne à tout type d'élèves. Donc, ce soit aussi bien des élèves, des enfants à partir de 6 ans que des adultes, du premier au troisième cycle amateur. J'encadre également un atelier ensemble de piano ouvert aux fins de premier cycle, début de second cycle, notamment pour ceux qui souhaitent approfondir certaines notions pour le passage de fin de cycle. Et j'ai également une classe de piano en parcours adapté avec des élèves en situation de handicap divers, notamment certains que je suis depuis l'âge de 4 ans, qui peuvent par la suite intégrer le cursus en fonction de leur spécificité et dès qu'ils seront prêts éventuellement à intégrer. Alors, ça peut être des troubles de l'autisme, TDAH, haut potentiel, dys, polyhandicap, déficience motrice, malentendant, non-voyant.
Merci.
Et j'ai également fait partie d'un projet orchestre à l'école que j'ai dû arrêter en raison de mon handicap auditif. Je ne pouvais plus jouer en orchestre, c'était trop contraignant, auditivement parlant.
Je comprends, merci. Dans le cadre de la préparation de notre entretien, pardon, vous m'aviez indiqué, et c'était également cité dans l'article que France Musique vous avait consacré, que vous appuyez pour l'enseignement du piano sur deux méthodes qui sont citées dans l'article. C'est la méthode Martenot et l'inventeur des ondes Martenot et la méthode Dolce. Pouvez-vous brièvement nous décrire les principes de ces deux méthodes?
Alors déjà, donc, pour vous expliquer un petit peu le pourquoi je me suis tournée vers ces pédagogies. Donc j'étais souvent confrontée aux problématiques des élèves arrivés en second cycle en formation musicale. J'ai enseigné en plus du piano l'éveil musical et la formation musicale, notamment dans les diverses écoles associatives où j'étais partie prenante. Et j'ai spontanément cherché des pédagogies diverses et variées. Et depuis longtemps, je voulais me former à la pédagogie Martenot en 2006 au Centre Martenot-Kléber à Paris, donc formée par Marie-Alice Charetta, qui est d'ailleurs l'auteur de nombreux ouvrages de formation musicale. Donc, je me suis formée à la pédagogie de la formation musicale et celle de la pédagogie du piano. Alors, en fait, cette pédagogie prend la personne dans son entier pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, le sensoriel passe avant la théorie et le cœur avant l'intellect. Alors les avantages de la méthode Marteneau par rapport aux méthodes classiques, on pourrait dire, sont la liberté intérieure, la liberté du geste, le chant libre, le jeu libre, l'improvisation aussi, l'imprégnation rythmique, les jeux sensoriels. Et en fait, tout ceci est inspiré de la méthode Montessori, avec des exercices de jeu spécialement créés. Donc on a par exemple une boîte de jeux, ça peut être des jeux de cartes, ça peut être des lotos, ça peut être des dominos. Et finalement, Marteneau a été quand même le pionnier, si j'ose dire, de tous ces jeux qui sont utilisés donc, beaucoup dans la pédagogie, surtout ces 10 dernières années. Mais ça a été vraiment l'un des pionniers de pouvoir mettre en place cette liberté ludique. Ludique ne veut pas forcément dire sans résultat ou sans exigence de niveau, pas du tout, au contraire. Au contraire, mais effectivement, cela permet notamment aux élèves en situation de handicap d'avoir des activités diverses et variées que l'on peut faire sur 5 ou 10 minutes en fonction des attentes. Et c'est surtout que l'on met en avant une difficulté à la fois. On n'aura pas concentré une autre difficulté tant que la première n'aura pas été acquise. Et c'est vrai que c'est vraiment très efficace, notamment pour les enfants qui ont des difficultés de coordination ou de concentration. Et c'est efficace aussi pour les malentendants, les non-voyants également. Donc c'est vraiment une pédagogie que j'utilise au quotidien et grâce à cela, j'ai pu aussi créer de nouveaux jeux, non édités, mais vraiment de nouveaux jeux que je personnalise en fonction des besoins.
Merci beaucoup Delphine.
Oui, je voulais ajouter que la méthode Marteneau, en fait, on est surtout dans le non-jugement. Et c'est à partir de ce moment-là, finalement, que j'ai commencé, moi, de mon côté, à parler de mon handicap. Parce que je me suis sentie justement bien dans cette pédagogie. Et voilà, donc petit à petit, il y a eu un premier cheminement pour la suite. Merci Bertrand.
Merci. Non, c'est moi qui vous remercie, mais c'est vrai que il y a une différence de degré dans l'apprentissage. Je vais essayer d'être précis, hein, donc j'essaie d'exprimer. Je pense qu'entre quelqu'un qui n'a pas un handicap et quelqu'un qui a un handicap, c'est une différence de degré par rapport à la difficulté que peut revêtir l'apprentissage musical. Et la question que je me pose concernant la méthode Marteneau, elle est aussi bien adaptée aux personnes qui ont un handicap qu'aux personnes qui n'ont pas de handicap.
Tout à fait, parce qu'à la base, c'est moi qui l'adapte pour les personnes en situation de handicap, mais pas Marteneau. Marteneau, en fait, c'est on va dire, créé pour les personnes qui suivent un cursus de conservatoire ou pour les professionnels ou voilà. Donc, c'est moi qui mets plutôt en application dans mes cours, à la différence de la méthode Dolce, où là, c'est une méthode spécifique pour la prise en charge en cours de musique, théâtre ou danse des élèves avec troubles de l'autisme.
Oui, je comprends. Merci. Donc, je résume très brièvement. En fait, vous avez adopté, vous vous êtes approprié la méthode Marteneau, qui n'était pas au départ faite pour un public touché par le handicap, parce que c'était plus une méthode destinée à mobiliser la globalité de la personne, son attention, son intuition, ses sensations, alors que la méthode Dolce est adaptée au public touché par le handicap. D'ailleurs, cette méthode a été créée à quelle époque?
Bonne question. Alors, cette méthode a été créée dans les années 2005, je crois.
D'accord.
Je ne sais plus. Hein. Je ne veux pas forcément faire d'erreur. Donc, c'est une méthode initiée par Françoise de Roque, professeur de piano, et qui avait justement mis en place, par observation, sa propre pédagogie pour notamment permettre de comprendre la personne avec trouble de l'autisme. Parce que ce n'est pas tout de lui trouver des outils ou des contenus pédagogiques ciblés si on ne la comprend pas elle-même. Donc on est obligé de voir comment elle interagit dans la vie, comment elle interagit au quotidien, quels sont ses troubles du comportement, pourquoi, etc. Et en même temps, comment l'accueillir dans sa classe ensuite, comment l'intégrer dans son cours, quelle posture avoir pour ensuite adapter ses supports pédagogiques.
Merci, je comprends en fait, je comprends mieux la manière dont l'apprentissage que vous avez mis en place s'est développé, parce qu'en fait j'avais des hésitations, des incompréhensions, notamment J'arrive à la question suivante. Vous avez ouvert, me semble-t-il, une structure adaptée à l'apprentissage musical et donc destinée aux personnes touchées par le handicap. Depuis quelque temps, pouvez-vous nous en parler quelques minutes, s'il vous plaît?
Oui, pas de souci. Merci Bertrand. Oui. Alors en fait, cette structure est c'est mon auto-entreprise en fait, tout simplement, parce qu'en fait je ne suis pas à temps complet dans la fonction publique territoriale. Donc on est tous un peu pareil, on doit pouvoir vivre, on va dire, hein, vivre de sa passion, mais vivre aussi en rémunération. Et donc effectivement, je vais chercher des compléments. Donc à l'époque, j'enseignais pardon à 5 écoles de musique associative, dont l'une où j'ai été directrice pédagogique. Donc ces expériences pédagogiques, d'organisation de spectacles aussi, d'organisation d'examens et également de management aussi bien dans l'association où j'étais directrice, m'ont amené finalement à développer mon auto-entreprise. Et c'est surtout en fait au moment de la naissance de ma fille où j'ai dû faire des choix. Courir à 5 écoles différentes tout en ayant un enfant à la maison, c'est compliqué. Donc il a fallu trouver une alternative. Donc, parallèlement au conservatoire de Montargis, eh bien, j'ai créé mon auto-entreprise et j'ai voulu découvrir de nouveaux territoires. J'ai d'abord monté une école de piano à Fontainebleau avant de finalement l'exporter à Boismorand, au sud du Loiret. Alors, cette école, je l'ai baptisée Tous en musique dans le but d'ouvrir l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Mais c'est surtout mon laboratoire pour pouvoir mettre en place ce que je mets dans mon école, le mettre en place à Montargis, tout simplement. Donc c'est un laboratoire qui me permet de tester de nouvelles approches, de nouvelles pédagogies comme celle avec Marteneau, Gaultier bien sûr, mais aussi Orff. Je fais également des cours d'éveil musical sensoriel en cours individuel, en pédagogie de groupe et des stages ponctuels durant les vacances. Alors certains de mes élèves viennent de loin, ils font jusqu'à 1 heure de trajet, n'ayant pas de professeur dans leur territoire. J'en ai certains qui viennent d'Orléans. Et certains aussi intègrent même Montargis. Je les ai eus, par exemple, 1 an ou 2 en séance d'initiation. Et j'en ai 2 qui ont intégré le conservatoire de Montargis, dont un qui est en cursus cette année.
Merci, merci
Alors,
Delphine. Combien accueillez-vous d'élèves dans cette structure?
je n'ai pas que des élèves en situation de handicap. J'en ai qui ont aussi des troubles 10, et j'en ai qui n'ont rien de tout cela. Qui sont notamment des enfants du village de Boismorand ou qui viennent d'autres communes. Donc j'ai une 20aine d'élèves à peu près, en sachant que depuis la crise du Covid, il y en a certains qui ont fait le choix de poursuivre en visio, donc il y en a un petit peu moins en présentiel. Donc voilà, donc j'y suis chaque mercredi et la première semaine des vacances scolaires pour le stage.
Merci beaucoup, Delphine. Vous avez évoqué il y a 2 minutes le passage d'élèves de votre établissement au conservatoire de Montargis.
Oui.
Aujourd'hui, les conservatoires de musique en France accueillent-ils facilement les enfants handicapés? Et accueille-t-il davantage qu'il y a 20 ans, par exemple, les enfants touchés par le handicap?
Je dirais que oui, la loi de 2005 a fait finalement avancer beaucoup de choses, même s'il reste encore beaucoup à faire. Alors, je tiens à souligner que le Conservatoire de Montargis a été l'un des pionniers à recevoir les publics en situation de handicap avant même que je sois nommée référente public empêché en 2015. Alors, je vous avoue que j'aurais beaucoup aimé que ça se passe comme cela, il y a 20 ans, 30 ans, voire 40 ans. J'aurais beaucoup aimé être soutenue de cette manière à l'époque, que l'on ose parler du handicap, car chacun finalement a sa place. Alors, même si j'enseigne à des personnes en situation de handicap depuis plus de 20 ans, effectivement, à l'époque, il n'y avait pas ou très peu de formation pour les enseignants. Au moment où je passais mon diplôme d'État en 2012, effectivement, ma première formation a été la méthode Dolce. Et effectivement, avant 2012, je n'avais même moi-même pas entendu parler de formation sur l'accueil des publics en situation de handicap, voire des publics empêchés. Les enseignants devaient
Oui,
souvent chercher par eux-mêmes. On est d'accord?
je comprends. Il y a 2 questions qui me viennent à l'esprit. C'est la question de la formation. On a évoqué la situation des élèves, mais il y a aussi la situation des enseignants qui doivent eux-mêmes, et on l'a évoqué, être préparés, formés pour pouvoir enseigner la musique à des élèves qui ont un handicap. Et il y a aussi une autre question sous-jacente à ce sujet, c'est le réseau. Est-ce qu'il y a un réseau des professionnels Est-ce que vous échangez sur la pratique entre professionnels enseignants dans le milieu musical?
Alors, moi-même, je fais partie du réseau national musique et handicap. Donc, c'est un réseau qui permet justement des rencontres entre professionnels, mais aussi associations de parents d'enfants en situation de handicap, de familles qui ont des personnes en situation de handicap. Et donc, effectivement, c'est un réseau national pour toutes les personnes qui, de près ou de loin, font partie intégrante de la situation de handicap. Et donc, effectivement, moi, je fais partie de ce réseau. J'ai notamment participé à des conférences. Donc, j'ai présenté mon propre parcours et où j'ai présenté également les formations que je fais aux enseignants de musique et aux directeurs d'établissement et pourquoi pas aux référents handicap aussi, donc sur la thématique de l'enseignement de la musique à ces publics.
Merci Delphine. Vous êtes, ce sera ma dernière question. Quand j'avais lu l'entretien de France Musique, j'avais quand même l'impression à la fois que vous étiez une personne tout à fait modeste, très pragmatique et très concrète, qui m'avait beaucoup plu. Et j'avais été très touché par la manière dont vous évoquiez votre propre apprentissage dans l'apprentissage musical. Vous êtes nombreux dans cette situation, c'est-à-dire être des personnes malentendantes aujourd'hui en situation d'enseignement musical, ou bien vous êtes vraiment quelqu'un de très particulier?
Ah, c'est gentil. Disons que je me dis souvent que je dois être une extraterrestre. En fait, on ne cherche pas à être unique, on est là pour aider les autres et justement aider les autres à s'épanouir. Finalement, en voulant aider les autres, ça me nourrit aussi moi-même et je trouve moi-même des réponses à mes questions qui m'ont hanté durant longtemps. Et effectivement, c'est une nourriture vraiment très positive. Et maintenant, justement, je suis même fière de pouvoir que ce handicap politique, finalement, il soit devenu une force, cette force, pour pouvoir la transmettre aux autres et montrer que oui, tout est possible. On a tous un potentiel à créer. Il suffit de le mettre en avant sans écouter les préjugés. On y va, on est capable, on a envie, allons-y. Donc, effectivement, tout ceci, c'est tout à fait important de pouvoir le mettre en avant. Alors, de là à ce que je rencontre des enseignants qui sont comme moi malentendants, oui. Je peux vous avouer que suite à la parution de l'article de Susanna Kubik dans France Musique, j'ai eu de nombreux retours positifs de partout et certains enseignants malentendants qui m'ont contacté pour échanger à ce sujet. Donc, on n'est pas nombreux, ça doit se compter sur les doigts de la main, ou du moins ceux qui le sont, mais qui n'hésitent pas à se manifester, je serais ravie d'échanger. Mais du moins, les enseignants malentendants, oui, je pense qu'on n'est pas nombreux, ou alors certains se cachent, ou alors certains ne le sont pas parce que justement à l'époque on leur avait dit « Ah ben non, tu es sourd, tu ne peux pas faire de la musique et encore moins enseigner », c'est ce qu'on m'a toujours dit. Et finalement, je ne les ai pas écoutés et j'en suis là aujourd'hui.
Merci Delphine, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Vous avez ouvert une piste, une voie et vous avez donné beaucoup d'espoir à de nombreuses personnes, je pense. Chers auditeurs, j'espère que nous vous avons apporté quelques éléments de réflexion sur l'enseignement musical adapté aux personnes ayant un handicap. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site radio cnfpt.fr, fréquence T. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Bertrand, merci beaucoup de votre accueil et puis à très bientôt j'espère.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.